Vous écoutez bien Radio France Internationale, 9h à Washington et à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel.
Anne Contner.
Une demi-heure sur le continent américain. Nous irons en Équateur dresser le bilan de la campagne présidentielle avant le second tour dimanche. Ça sera très serré entre le sortant Daniel Noboa et Luisa González, la candidate de gauche. On appellera dans quelques minutes notre correspondant sur place. Au sommaire également, la République dominicaine avec 3 jours de deuil national supplémentaire et le choc, le drame de la boîte de nuit Jet Set à Saint-Domingue au début de la semaine a fait 221 morts. On recevra aussi le photographe haïtien Clarence Sifroy qui a remporté le prix du World Press Photo pour l'Amérique du Nord dans la catégorie Stories. Et puis comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer françaises. Lou Suran, vous nous parlerez du scandale des airbags défectueux Takata.
L'État met la pression sur les constructeurs. On entendra l'avocat qui accompagne des victimes et familles de victimes dans plusieurs territoires ultramarins. A tout à l'heure.
A tout à l'heure. Mais d'abord le journal, avec vous Gilles Moreau, bonjour.
Bonjour à tous.
Et cette nouvelle escalade entre Washington et Pékin sur les droits de douane?
Oui, la Chine va faire passer dès demain à 125% ses droits sur les produits américains importés. C'est sa riposte à l'annonce cette semaine par Donald Trump d'une surtaxe de 145% sur les biens chinois. En ce qui concerne maintenant l'Europe, face à un allié américain devenu imprévisible, l'Europe cherche de plus en plus à diversifier ses partenaires commerciaux. Le président chinois Xi Jinping lui tend la main, l'invitant à mutualiser les forces pour, je le cite, résister ensemble à la coercition. Anastasia Becchio a recueilli l'analyse d'un expert, Jean-François Di Meglio, président de l'Asia Center.
Si la Chine nous fait signe, c'est bien qu'elle a besoin de nous. La Chine exporte en Europe. Nous sommes son premier marché d'exportation. Si jamais nous faisions comme les Américains ce que nous n'avons pas envie de faire, bien sûr, eh bien la Chine aurait un double problème, l'Union européenne et les États-Unis. Or là, pour anticiper ce deuxième problème qui pourrait lui arriver, c'est lui qui vient aux en nous disant « Mais venez donc à Pékin, je vous invite, et tout va bien se passer. » Donc c'est le monde à l'envers. Au moment même où peut-être nous allions nous réunir autour d'une décision sur les voitures électriques, c'est-à-dire réunir un consensus, pas forcément en interdisant les voitures électriques chinoises, il ne s'agit pas de ça, mais trouver un équilibre. Peut-être les faire entrer avec un certain niveau de taxes, mais en demandant des contreparties. Je n'ai pas l'impression que lorsque Xi Jinping vient nous voir, il s'attend à ce que nous proposions des contreparties, c'est-à-dire à demander à la Chine qu'elle ouvre plus la possibilité d'investir si nous le souhaitons, qu'elle ouvre plus de secteurs si nous voulons y être présents. C'est peut-être ce qui sera à l'ordre du jour, ce serait très bien. Et pour l'instant, je ne l'ai pas entendu.
Jean-François Di Meglio, président de l'Asia Center, un institut de recherche indépendant consacré à l'économie en Asie. Après avoir ouvert en hausse, les indices boursiers aujourd'hui sont repartis à la baisse en Europe. Le dollar, lui, continue de plonger face à l'euro. Il est au plus bas depuis plus de 3 ans. La guerre commerciale déclenchée par Donald Trump provoque de fortes fluctuations sur les marchés financiers. Dans ce contexte, la BCE, la Banque Centrale Européenne, se dit prête à intervenir en cas de risque pour la stabilité en zone euro. Sachez enfin que le commissaire européen en charge du commerce sera lundi à Washington. Il aura des entretiens avec l'administration Trump sur les droits de douane.
Un nouvel incident entre la Chine et Taïwan.
Oui, le capitaine d'un cargo chinois a été arrêté et inculpé à Taïwan. Il aurait coupé un câble de télécommunication dans les eaux stratégiques entre les deux pays. Les précisions d'Heike Schmidt.
Simple accident ou sabotage, les procureurs sont formels, il s'agit d'un acte malveillant. On est le 25 février, le capitaine du cargo chinois Hong Tai demande à son équipage, 8 ressortissants chinois, de lâcher l'ancre à proximité de Penghu, un archipel du détroit de Taïwan, avec l'intention de détruire un câble sous-marin. Puis, il dirige son navire en zigzag au-dessus de ce même câble en utilisant l'ancre du cargo pour le couper. Résultat, les communications entre Taïwan et Penghu sont affectées. Le Hongtai, battant pavillon togolais, est intercepté par les gardes-côtes taïwanais. Depuis, son capitaine Wang est en détention. Il risque 7 ans de prison. Agissait-il sur ordre de Pékin? En tout cas, cet incident est loin d'être un acte isolé. Taïwan a signalé plusieurs cas de câbles sectionnés ces derniers mois. Un enjeu hautement stratégique, 99% des connexions externes de l'île dépendent de ses fibres optiques sous-marines.
C'est à Eike Schmidt. L'Iran promet qu'il donnera une véritable chance à la diplomatie lors des pourparlers sur le nucléaire prévus demain, samedi, avec les États-Unis. Des pourparlers inédits entre les deux pays ennemis. Ils auront lieu dans le sultanat d'Oman, en présence de l'émissaire américain pour le Moyen-Orient et du ministre iranien des Affaires étrangères. La défense civile palestinienne annonce un bilan de 10 morts, 10 membres d'une même famille, dont des enfants. Ils ont été tués dans une frappe israélienne nocturne à Ran Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Deux autres personnes ont été tuées dans une frappe, cette fois à Beth Laya, dans le nord du territoire.
Les relations se tendent entre les États-Unis et le Canada.
C'est si vrai que s'ils veulent entrer aux États-Unis, eh bien les Canadiens doivent montrer patte blanche. Ceux qui restent plus de 30 jours doivent désormais s'enregistrer auprès des autorités américaines, mesure qui suscite confusion et inquiétude. Reportage de notre correspondante à Montréal, Nafi Alibert.
Gare d'autocar de Montréal, Jean attend son bus pour Boston. Il part dans une heure et ne sait toujours rien des nouvelles restrictions visant les voyageurs canadiens.
Je n'ai pas encore entendu ça, mais ce n'est pas normal parce que le Canada et les États-Unis, ce sont deux pays amis.
Et pourtant, un décret signé par Donald Trump oblige désormais les Canadiens qui restent plus de 30 jours aux États-Unis à s'enregistrer auprès des autorités pour, je cite, « protéger le peuple américain contre l'invasion ».
Je ne vois pas pourquoi on demande tout ça. Bon, les traversées des frontières, c'est fait souvent sans problème. C'est plus compliqué maintenant.
L'angoisse est palpable chez d'autres voyageurs, alors que des histoires de Canadiens refoulés ou détenus à la frontière ont largement été relayées dans les médias.
On ne sait plus où qu'on s'en va, on devient perdu.
Chantal, directrice d'une agence de voyage, constate la même inquiétude chez ses clients.
Beaucoup de nos clients ils nous appellent, ils sont peur.
C'est que le gouvernement canadien a émis des mises en garde face au durcissement des contrôles à la frontière et certains abandonnent même l'idée du voyage.
Moi, j'ai aucun intérêt d'y aller. Puis la plupart des gens que je connais n'ont aucun intérêt d'aller aux États-Unis pendant que le climat est comme il est en ce moment.
Mais pour ceux qui prévoient séjourner plus d'un mois aux États-Unis, il faudra garder la preuve d'enregistrement sur soi en tout temps, sous peine d'une amende pouvant atteindre 5 000 $, voire d'emprisonnement. Nafi Alibert, Montréal, RFI.
Un accident d'hélicoptère fait 6 morts à New York. Pour une raison encore inconnue, l'appareil s'est abîmé dans le fleuve Hudson. Les victimes sont le pilote et ses passagers, une famille de 5 touristes espagnols, dont 3 enfants. Leur père était un dirigeant de Siemens, le géant industriel allemand.
Le retour de bases militaires américaines au Panama est toujours exclu.
Oui, en revanche, des troupes américaines vont être autorisées à se déployer à proximité du canal. Un accord bilatéral a été conclu en ce sens. La question étant de savoir, Christina Petkova, si le Panama a cédé aux demandes de Washington.
Oui et non. Oui, parce que l'armée américaine et des sociétés militaires privées engagées par les États-Unis pourront utiliser des sites proches du canal, des installations et des zones aménagées spécialement pour les entraînements militaires et des activités humanitaires. C'est donc une concession importante à Washington, mais le Panama n'a pas cédé totalement. Le canal reste panaméen et selon l'accord d'une durée de 3 ans renouvelable, les installations à usage militaire seront aussi la propriété de l'État du Panama. Elles seront utilisées conjointement par les forces des deux pays. Pas de retour des bases militaires américaine, aucun territoire ne sera cédé. Ce canal est très important pour Donald Trump pour contrer les intérêts de la Chine, qui a trop d'influence selon le Pentagone. Sous la pression de la Maison-Blanche, le Panama a poussé la société Panama Ports Company, filiale du groupe Ongonke CK Hutchison, a cédé au fonds américain BlackRock sa gestion des ports de Balboa et Cristobal situés aux deux extrémités du canal, deux ports qu'il contrôlait depuis 1997.
Merci. C'était Christina Petkova. Football, la carrière de Mohamed Salah chez les Reds se prolonge. Après des mois de spéculation, l'Égyptien met fin en suspense. Il prolonge de 2 ans son contrat avec Liverpool, l'actuel leader de la Premier League. Et pour finir, un résultat de tennis au tournoi de Monte Carlo. Il n'y a plus de Français. Le dernier d'entre eux, Arthur Fils, vient d'être battu en 3-7 au terme d'un match disputé donc face à l'Espagnol Carlos Alcaraz. Bonne journée sur RFI. Tout de suite, la suite et la fin d'RFI Midi avec vous, Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. Nous sommes sur le continent américain et on va prendre tout de suite la direction de l'Équateur.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Où ont eu lieu hier les derniers grands meetings de campagne, dernière chance pour les candidats à la présidentielle de mobiliser avant le scrutin de dimanche. Les deux nouvelles forces dominantes de la scène politique s'opposent pour ce second tour. représentée par deux candidats qui ont obtenu des scores similaires au premier tour et donnés au coude à coude par les sondages. D'un côté, le président sortant, Daniel Noboa, qui est au pouvoir depuis un an et demi. Il avait terminé le mandat de son prédécesseur. Et de l'autre, la candidate de gauche, Luisa González, l'héritière du parti de l'ancien dirigeant Correa. C'était une longue campagne. Le premier tour avait eu lieu début février. Et nous sommes en ligne pour en parler avec notre correspondant. Bonjour Éric Sanson.
Bonjour.
On va essayer de faire le tour des enjeux de ce scrutin en commençant par le côté politique. Qu'est-ce qui se joue pour les partis ?
Eh bien, probablement le futur du mouvement coréiste qui a dominé le pays de 2007 à 2017, mais s'est ensuite fracturé avec l'élection à la présidence de Lénine Moreno. L'ex-vice-président de Rafael Correa est rapidement devenu son principal adversaire et a lancé un mouvement de restauration des institutions du pays où tous les pouvoirs étaient jusqu'alors occupés par des partisans de Correa. Ces derniers ont essayé à de nombreuses reprises de reprendre le pouvoir, que ce soit dans les urnes ou dans la rue, mais sans succès jusqu'à présent. Lorsque le parquet, par exemple, a lancé l'affaire Sobornos ou Pot de vin, Rafael Correa a commencé à avoir de vrais problèmes avec la justice, au point d'ailleurs d'être condamné et donc d'être actuellement inéligible. C'est à ce moment-là, en octobre 2019, qu'ont éclaté les premiers massacres dans les prisons et que les indigènes se sont soulevés. De nombreux analystes n'y voient pas une coïncidence. En 2021, le candidat coréiste Andrés Arauz a échoué lors de l'élection présidentielle et un nouveau soulèvement indigène a suivi en 2022. Ensuite, on a eu de nouvelles affaires judiciaires qui ont montré des liens entre trafiquants de drogue comme Leandro Norero et des alliés de Rafael Correa comme l'ex-député Rony Aliaga. Le mouvement coréiste a quand même fini par obtenir la démission du président Guillermo Lasso en le boycottant à l'Assemblée nationale. Mais là, il s'est passé quelque chose d'imprévu, l'élection de Daniel Noboa, aujourd'hui candidat à sa réélection.
Et une réélection, ça pourrait menacer l'avenir du parti Révolution citoyenne de Rafael Correa ?
Oui, c'est un risque en effet, parce que depuis 7 ans, ce mouvement a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie pour revenir au pouvoir. S'il échoue une nouvelle fois, le risque d'affaiblissement est réel, car il aura du mal à s'apposer au président Noboa, qui pourra négocier une majorité législative, qui ne va pas se laisser faire. Daniel Noboa, c'est un homme fort, même autoritaire, qui n'a pas hésité, par exemple, à envahir l'ambassade mexicaine à Quito pour y capturer l'ancien vice-président Jorge Glass, qui venait d'y obtenir l'asile et qui est aujourd'hui en prison. Il s'est également assis sur les lois et la Constitution en essayant de se débarrasser à tout prix de sa vice-présidente, en qui il n'a plus confiance, ou en refusant de demander au Congrès l'autorisation de se mettre en congé de la présidence durant la campagne électorale. Donc, le mouvement coréiste joue gros, et pour l'heure, les sondages sont très très serrés. Seules des différences minimes séparent les deux candidats finalistes de ce second tour.
Et puis le résultat du deuxième tour va aussi déterminer, Éric, le futur de la politique internationale de l'Équateur.
Oui, Daniel Noboa, depuis son élection, a resserré les liens avec les États-Unis. Il a d'ailleurs tout pour plaire à Donald Trump, qui l'a invité lors de sa cérémonie d'inauguration à Washington, et l'a depuis reçu à Mar-a-Lago. Daniel Noboa est le fils d'un milliardaire, il est né à Miami, et il a rapidement donné des gages à Donald Trump. Il vient d'inviter Eric Prince, le fondateur de la sulfureuse compagnie américaine de sécurité Blackwater, pour aider à la lutte contre les cartels. Et le président sortant veut notamment réformer la Constitution pour que puissent revenir les bases militaires étrangères, et notamment américaines. En cas d'élection de Luisa González, l'Équateur, en revanche, devrait effectuer un retour à gauche vers une posture socialiste et anti-impérialiste. La candidate, par exemple, a déjà indiqué qu'elle reconnaîtrait le régime de Nicolas Maduro au Venezuela.
Voilà, donc le vote aura lieu dimanche dans une ambiance qui est très tendue.
Ah oui, parce que quelle que soit la décision des 13 700 000 électeurs, le président Noboa, par exemple, a déjà dit qu'il ne reconnaîtrait une éventuelle défaite que s'il n'y a pas de soupçon de fraude. Et Luisa González, quant à elle, elle a accusé le Conseil national électoral d'être au service du chef de l'État. Elle menace de mobiliser ses partisans. Et tout cela sur fond d'une violence qui a repris en force depuis le mois de janvier, à raison quand même d'un assassinat toutes les heures. L'Équateur était l'an dernier le deuxième pays le plus violent d'Amérique latine.
Éric Sanson en direct de Quito où il est 8h15. Ce vendredi est une journée de grève au Pérou. Les chauffeurs de bus protestent et demandent aux autorités de mieux les protéger contre les extorsions, contre les violences qu'ils subissent de plus en plus souvent de la part des groupes criminels. Reportage, Martin Chabal.
Avec la colère des manifestants, il y a aussi beaucoup de tristesse. Liliana Zarate tient un portrait de Loimer Benigno, c'était son mari.
C'était vendredi. Ils sont montés dans son bus alors qu'il transportait du monde. Mais quelqu'un lui a tiré dessus. Ils l'ont assassiné.
Elle avait 2 enfants avec l'Oimer.
Je me sens détruite. Je ne peux pas le croire. Il faut mettre fin à la délinquance. Le gouvernement, le Congrès, ils doivent faire quelque chose. Ça laisse des familles détruites.
Julio, lui, est chauffeur de bus depuis 40 ans et sort tous les jours avec la peur de ne pas rentrer le soir chez lui. Il veut du concret.
Ils tuent des innocents tous les jours, alors qu'on remette la peine de mort. Il nous faudrait quelqu'un comme Bukele, le président du Salvador, pas ce gouvernement qui ne fait rien.
Le nom de Nayib Bukele est écrit sur de nombreuses pancartes dans la manifestation. C'est un vrai symbole dans la lutte contre la délinquance pour les Péruviens. Et ce, même si le respect des droits humains de ces méthodes est remis en question. Martin Chabal, Lima, RFI.
Grève dans les transports au Pérou, grève générale en Argentine, on vous en parlait hier. C'est la 3e depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei. Et elle était accompagnée, Juliette Chénion, d'une manifestation à laquelle ont participé plusieurs milliers de personnes, c'est à lire dans la presse aujourd'hui.
Oui, le mouvement de grève était inégal et à l'impact modéré, dit La Nation. Le journal affirme aussi que l'exécutif a tenté de freiner le mouvement en faisant pression sur le plus gros syndicat de transporteurs du pays. Résultat, les bus circulaient bien dans Buenos Aires pour le plus grand plaisir du président Milei, dont le gouvernement avait qualifié les dirigeants de la plus grande centrale syndicale pro-péroniste, la CGT, d'animaux sauvages.
Les syndicats, en revanche, parlent, eux, d'un succès retentissant.
Oui, pas d'avion, pas de train, pas de bateau, ni de banque ouverte, lit-on dans le média Aparina Dossé, qui cite un responsable syndical. La grève a démontré l'important rejet du choc des prix, des licenciements et de l'étouffement budgétaire des provinces. Les Argentins ont dit stop à ces politiques cruelles. Ces syndicats annoncent d'ailleurs, au même média, une intensification du mouvement, si rien ne change.
La suite de votre revue de presse aux États-Unis. Alors, on ne va pas revenir sur ces mesures choquantes concernant les immigrés. Je vous invite à réécouter l'entretien que nous a accordé tout à l'heure l'avocat et essayiste Olivier Piton. Il y a un autre sujet sur lequel les journaux reviennent largement, c'est la nomination du nouveau chef d'état-major des armées, Dan Kane, le précédent titulaire du poste ayant été limogé par Donald Trump.
Rien de surprenant, la nomination du général Kane, promu 4 étoiles, fait consensus, écrivent The Hill et le Washington Post. Le New York Times explique que même chez les démocrates, l'ex-pilote de chasse est perçu comme peut-être la meilleure option au vu des circonstances. Lors de son audience devant le Sénat, le général Kane a juré, rapporte The Hill, de s'opposer à des ordres illégaux et de dire la vérité au pouvoir. Un sénateur démocrate lui a demandé de le faire, raconte le New York Times, même si cette vérité n'est pas celle que voudrait entendre Donald Trump. Le journal new-yorkais fait d'ailleurs état d'une nouvelle purge dans l'armée avec le renvoi de la commandante de l'unique base américaine au Groenland. Le porte-parole du Pentagone évoque un mail qu'elle aurait envoyé à ses troupes où elle exprimait des désaccords avec le vice-président Vance.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Le bilan s'est encore alourdi à Saint-Domingue. Le nombre de victimes du drame survenu dans un club de la capitale dominicaine mardi, l'effondrement du toit, s'élève désormais à 221 personnes et certaines sont toujours portées disparues, Muriel Paradon.
Il n'y a plus d'espoir raisonnable de retrouver des survivants. Déclaration des autorités dominicaines qui doivent se résoudre à arrêter les recherches. Aucune personne n'a été sortie vivante des décombres de la discothèque depuis mardi. Le bilan, déjà très lourd, pourrait augmenter. Des corps seraient encore piégés dans le bâtiment effondré. Selon la procureure nationale citée par le journal Listín Diario, les familles des victimes doivent être appelées pour récupérer les effets personnels de leurs proches. Durant 2 jours, ces familles se sont pressées dans l'angoisse devant la discothèque et devant les hôpitaux pour tenter de retrouver des survivants. Mais l'attente a laissé place au deuil. Ce jeudi, le chanteur de merengue Ruby Pérez, qui se produisait sur scène au moment du drame et qui est mort, a été enterré au Théâtre National de Saint-Domingue en présence de nombreux artistes. Le chanteur était très populaire. Une enquête devait être lancée après la fin officielle des recherches. On ignore toujours à l'heure qu'il est, ce qui a provoqué l'effondrement du toit du bâtiment.
Le pays est toujours sous le choc. Le président a décidé hier de prolonger le deuil national de 3 jours jusqu'à dimanche. Et ce drame fait toujours la une de la presse, Juliette Chénion.
Oui, Anne, le Nuevo Diario nous raconte l'enterrement de Ruby Pérez, ce chanteur de merengue mort sous les décombres. Un hommage émouvant entre larmes et musique, titre le journal dominicain. Ruby Pérez n'était pas qu'un symbole du merengue dominicain, c'était aussi un homme aimé à la voix puissante qui remplissait les scènes et le cœur, conclut le Nuevo Diario.
Mais après les larmes et le deuil, vient le temps de l'enquête.
Des hypothèses émergent, nous dit le Diario Libre. Dans un article un peu technique, des experts questionnent l'existence de fuites dans le bâtiment, le choix des matériaux, l'impact des vibrations sonores et les alertes ignorées par le passé. Tout cela inquiète aussi le Nuevo Diario qui nous dit « Nous nous devons de regarder plus loin que le cas de la boîte de nuit Jet Set car cette tragédie n'est que la fissure visible d'une vaste structure faite de l'abandon, la négligence et le manque de planification qui caractérise beaucoup de nos institutions. » L'éditorialiste interroge « Et si le prochain effondrement concernait le pont de la 17, un pont emprunté par 80 000 voitures par jour et dont plusieurs rapports pointent le délabrement.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Dans la presse haïtienne revient aujourd'hui le sujet de la dette de l'indépendance. Cette somme considérable, 150 millions de francs de l'époque, exigée par l'ancien pays colonisateur, la France, en échange d'une reconnaissance de la jeune République d'Haïti.
Oui, Anne, le Nouvelliste nous apprend que le président français Emmanuel Macron fera des annonces jeudi prochain. 200 ans plus tôt, la France extorquait une rançon à Haïti pour dédommager les propriétaires d'esclaves de la colonie de Saint-Domingue, écrit l'éditorialiste France Duval. Depuis 2004, tous les présidents haïtiens avaient éludé la question pour ne pas froisser la France en espoir d'un soutien, explique le Nouvelliste, qui rappelle que la crise traversée par le pays et les changements politiques en France ont réduit au minimum le soutien français. Entre Haïti et la France, les promesses ne se transforment pas toujours en projets et les projets ne sont pas toujours menés à terme, prévient l'éditorialiste. Et avant de conclure, pour le moment, plus que des milliards ou des promesses, le pays a besoin d'un coup de pouce sécuritaire. La France peut-elle s'occuper de cela ?
Haïti au Sénat français hier, une résolution pour la restauration de la sécurité dans le pays a été votée. Et Haïti se tourne aussi vers l'Organisation des États américains, l'OEA.
En effet, la Gazette Haïti rapporte le voyage aux États-Unis de Smith Augustine. Le conseiller présidentiel a demandé à l'OEA un soutien international renforcé et l'appui de la demande d'Haïti à l'ONU, qui consiste à réunir 900 millions de dollars et renforcer la mission multinationale de sécurité avec 2400 agents supplémentaires.
Haïti qui a reçu une bonne nouvelle des États-Unis.
Une rare bonne nouvelle, note le Miami Herald. Selon la décision d'une cour fédérale, la Fondation Interaméricaine, une petite agence gouvernementale qui subventionne le développement économique et social en Haïti, obtient un sursis au démantèlement dévastateur de l'agence, je cite, voulue par les services d'Elon Musk. Une bonne nouvelle, peut-être de courte durée, prévient l'éditorialiste, car le ministère de la Justice a fait appel.
Un sursis bienvenu quand même, donc Juliette Chénion, pour un pays où la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader. Et il est de plus en plus difficile de raconter le quotidien d'Haïti. Les journalistes sont pris pour cible, attaqués par les gangs, mais certains parviennent à continuer d'informer. C'est le cas par exemple de nos confrères d'Alter Presse et du Nouvelliste que nous appelons chaque semaine. Et puis c'est votre cas aussi, Clarence Sifroy, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes photographe à Port-au-Prince, vous venez d'être récompensé par le très prestigieux World Press Photo pour l'Amérique du Nord dans la catégorie Stories. Ces histoires, ce sont celles de très nombreux habitants de la capitale. Vos photos montrent leur quotidien, la mort, les destructions, la fuite, la faim. Comment est-ce que vous travaillez au quotidien ?
Bon, à mon réveil, tous les matins, je branche les médias de la place pour avoir une idée de la crise sociopolitique et économique du pays. Question de formuler mon sujet de reportage photographique et de savoir où je dois me rendre dans l'immédiat pour commencer à photographier.
Est-ce que vous vous sentez menacé?
Bon, normalement, dans tous les pays en crise, que ce soit politique ou humanitaire, les journalistes sont souvent cibles par rapport au travail qu'ils font. Bon, je peux dire, dans mon cas, que je ne sois pas ciblé directement, mais cela n'empêche pas à d'autres collègues d'être victimes de temps à autre par des hommes armés. Bon, on ne peut pas se déplacer n'importe où, parce que il y a à peu près plus de 80% de territoire perdu. Il y a des zones rouges que je ne peux pas me rendre.
Le prix du World Press Photo, il est très renommé. Qu'est-ce que ça peut changer dans votre manière d'exercer votre métier?
Bon, oui, ce prix me confère le réseautage. Il me donne plus d'opportunités de faire connaître la réalité de mon pays à travers le monde. Et de plus, cela apportera, je pense, une autre couleur à ma carrière.
Merci Clarence Siffroy, photojournaliste et récompensée donc par le World Press Photo dans la catégorie Stories pour la région Amérique du Nord. Pour ceux qui auraient envie de découvrir votre travail, je précise qu'on peut voir certaines de vos photos sur Internet, notamment sur le site de l'agence France Presse pour laquelle vous travaillez en Haïti.
Le journal de l'Outre-mer.
On vous retrouve, Lou Suran. Il y a du nouveau dans l'affaire des airbags défectueux Takata.
Pour la première fois depuis le début du scandale, l'État intervient. Un arrêté est entré en vigueur le 7 avril pour imposer des nouvelles règles à 30 constructeurs automobiles. Pour rappel, ces airbags ont provoqué 11 décès en Outre-mer. Cet arrêté est donc une première étape importante pour maître Charles-Henri Copette, avocat antillais d'une vingtaine de victimes et familles de victimes dans plusieurs territoires ultramarins, dont la Guadeloupe. Il est au micro d'Emma Jaconelli d'Outre-mer, la première.
Cet arrêté est une étape extrêmement importante, attendue par les familles des victimes. C'est la première fois que l'État se manifeste et se résout à encadrer ces rappels. Ces rappels qui jusqu'à présent ont été erratiques, chaotiques, avec à la clé des morts, des blessés, puis des années. Aujourd'hui, cet arrêté va contraindre les constructeurs à ne plus agir comme ils le veulent ou comme ça les arrange, mais comme ils le doivent, par un certain nombre de mesures extrêmement importantes. Et c'est aussi le signal, avec les sanctions financières, qui sont importantes, de 100 000 à 1 million d'euros, c'est aussi un premier pas donné, un premier avertissement donné aux constructeurs. Un premier constructeur a été condamné, BMW, pour 315 000 euros, parce qu'ils n'ont pas de structure en Outre-mer, pour pouvoir, notamment en Guadeloupe et en Martinique, pour pouvoir traiter les airbags défectueux. Et ça montre effectivement que l'État prend toutes ses responsabilités. C'est tardif, mais ça le mérite d'exister.
Et de nouvelles marques de voitures se rajoutent à la liste des airbags défectueux. Toyota et Mercedes rejoignent Citroën et Volkswagen dans le rappel massif de véhicules équipés d'airbags Takata. Dernières heures de Valérie Létard en Martinique. La ministre du Logement repart après une visite de 24 heures. Hier, elle s'est notamment rendue dans une résidence intergénérationnelle au Robert. Jeunes et moins jeunes vivent ensemble dans un immeuble, dans le même immeuble. Reportage.
Cette résidence intergénérationnelle fait figure d'exemple. Sur les 60 logements, 3 sont réservés à des jeunes de moins de 30 ans. Les autres sont destinés à des seniors. Marthe, qui a fait sa vie dans l'Hexagone, occupe depuis 2 ans un de ces logements. Elle se sent comme chez elle.
La cohabitation avec les autres locataires, c'est très bien. Je suis arrivée ici, j'ai trouvé une petite dame au deuxième qui a besoin d'aide. Donc je la soutiens, je vais lui faire ses courses. On s'entraide.
La ministre a été ravie par les échanges avec les seniors. Pour Valérie Létard, ce type de résidence est une solution pour réduire l'isolement.
Le fait d'avoir un jeune à côté de soi, c'est une sécurité aussi.
Ce projet a été réalisé par le bailleur social. Pour Ozanam, c'est un moyen de renforcer le lien social. Antoine Rouffian, le directeur général d'Ozanam.
Il y a même des belles histoires qui se sont créées dans cette résidence. Il y a des jeunes, souvent, avec de la famille éloignée, et donc ils retrouvent ici une deuxième famille de cœur, une deuxième grand-mère, un deuxième grand-père.
Les résidences intergénérationnelles, une solution pour lutter contre l'isolement. En tout cas, à Ozanam, on y croit. Un exemple que la ministre aimerait reproduire dans l'Hexagone.
Un sujet de Pierre-Yves Honoré de Martinique, la première. C'est la fin de ce journal. Bonne journée sur RFI.
Merci Lou Suran. On se quitte en musique. Avec le groupe de rock garage canadien Galaxy, qui sera en concert ce soir à Québec. Voici le titre Tarantule. Et c'est ainsi que se termine RFI Midi pour aujourd'hui. On se retrouve lundi 11h, temps universel. L'émission du jour était réalisée par Vincent Bito, à qui on souhaite de bonnes vacances. Restez sur notre antenne. Dans quelques secondes maintenant, Littérature sans frontières avec Catherine Fruchon-Toussaint. Très bonne journée à tous.
RFI Midi.